Bonjour, bonsoir et bienvenue au podcast Découverte avec Frédéric, où je partage mes découvertes avec mon chat Grisou, mon amie Véronique et toi. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. On va parler de ménage. C'est peut-être un peu drôlement choisi comme sujet, mais continue à m'écouter, tu vas voir, ça va faire du sens. Bon, on est en février, c'est l'hiver encore. Tranquillement, les journées s'allongent, fait que ça fait du bien. Mais je sais pas pour toi, mais pour moi, l'hiver, c'est toujours difficile comme période. Puis, ça faisait un bout que je savais qu'il y avait une femme sur les réseaux sociaux qui s'appelle Casey Davis. Et elle parle de ménage, mais en fait, elle appelle ça du « struggle care ». Puis, c'est vraiment intéressant. Donc, je voulais t'en parler. En fait, elle a écrit un livre qui a été traduit et qui a été publié par les éditions Jouvence. Je l'ai lu. C'est super bon. On va en lire des bouts ensemble aujourd'hui. Puis, on va explorer ensemble un peu c'est quoi le struggle care. Comment est-ce qu'on peut prendre soin de notre maison puis prendre soin de nous quand on n'est même pas capable d'y arriver. Donc, c'est un peu une capsule pour toutes mes amies, toutes mes collègues, les gens que je connais et pour moi qui avons de la difficulté par rapport à notre maison, par rapport à toutes les tâches qu'il faut faire, puis par rapport aussi à prendre soin de nous dans des périodes plus difficiles, que ce soit des longues périodes ou des courtes périodes. Donc, on va explorer ça un petit peu ensemble aujourd'hui. J'espère que tu es prête et prêt. Et ben, on y va! Alors, mettons-nous dans le bain un petit peu. C'est qui Casey Davis? Qu'est-ce qu'elle fait? Où est-ce qu'elle est? Etc. Donc, elle a un site web, strugglecare.com. Elle a fait un TED Talk aussi qui est disponible sur YouTube. Elle a un podcast qui s'appelle Struggle Care aussi. Elle est sur plein de réseaux sociaux, notamment TikTok, où elle fait beaucoup de capsules, où est-ce qu'elle parle de son ménage, de son organisation, de son nouveau système là, qu'elle parle dans son livre. Puis, bien sûr, elle a fait un livre, How to Keep House While Drowning, qu'on va lire aujourd'hui. Ce qui est super intéressant, puis ce qui m'a tout de suite attiré chez cette madame-là avec la façon qu'elle fonctionne et tout, bon, elle a fait des études là en counseling, en psychologie, c'est quand même quelqu'un qui est ferré aux côtés de santé mentale, et c'est une méthode qui est pleine d'autocompassion, de compréhension, d'inclusion. Elle va proposer différentes choses, puis on accepte vraiment dans sa mentalité là, les fonctionnements exécutifs différents d'une personne à l'autre. Elle va adresser aussi la division du travail lorsqu'on est un couple. Puis, quelque chose qui est vraiment intéressant, puis qu'on va pouvoir explorer un peu aussi aujourd'hui, c'est ce que je pourrais appeler un peu comme la démoralisation de la saleté. Donc, elle va enlever la valeur morale qu'on porte souvent par rapport à si notre maison est propre, ben on est des bonnes personnes. Si notre maison est sale, ben on n'est pas des bonnes personnes. Elle va l'expliquer beaucoup mieux que moi dans son livre. Donc, on va lire quelques extraits là-dessus. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que ça a été prouvé par des recherches et tout que lorsque on fait des choses motivées par la honte, les changements qu'on apporte avec cette motivation-là ne vont pas durer. Et ça sera pas aussi positif que si c'est des changements qui sont apportés justement avec de l'autocompassion, avec de la compréhension, puis avec ce qu'on pourrait appeler de la grâce aussi. Et dans le fond, je dis de la grâce, mais c'est aussi plus du pardon de soi puis de l'acceptation de soi. Donc, c'est super intéressant. Puis le livre en tant que tel, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, en tout cas l'édition que je vends, que j'ai lu, je sais qu'il y a peut-être une autre édition qui est disponible en français, c'est que elle propose des raccourcis. Donc, le livre, moi, ça m'a pris peut-être environ 2 heures le lire au complet. Mais il y a des raccourcis, donc il y a des chapitres qu'on peut sauter si on veut vraiment juste aller au plus précis là, de sa méthode. Et cette lecture-là avec les raccourcis dure entre 30 et 60 minutes, ce qui fait en sorte que c'est super accessible, ben c'est plus accessible pour les gens qui ont de la misère avec la concentration, les gens qui ont de la misère avec la lecture ou juste les gens qui n'ont pas de temps. Puis c'est écrit et structuré vraiment pour faciliter la lecture au plus de types de gens possibles, incluant les neuroatypiques. Donc c'est super intéressant voir la structure qui est pas si différente que ça d'un livre ou quand moi je prends mes notes personnelles. Fait que je trouve ça vraiment intéressant que ce soit apporté de cette façon-là parce que ben le thème c'est justement quand tu as de la misère à fonctionner, il faut que tu te facilites la vie et ce livre-là est vraiment fait pour être accessible au plus de monde possible, ce qui est vraiment fantastique. Donc j'espère que ça te met un petit peu dans le bain. Avant de sauter dans le premier extrait, je te laisse avec cette phrase-ci. Tout ce qui vaut la peine d'être effectué peut l'être partiellement. Alors, allons-y avec les différents extraits que je veux te lire. Il y en a quand même plusieurs et on va y aller vraiment en ordre chronologique de son livre. Donc, on commence tranquillement avec ce qui vient faire un petit peu la base de son approche. Mais en quoi ce livre diffère-t-il des autres ouvrages de développement personnel? Tout d'abord, je ne propose pas un programme, mais une philosophie. Vous n'êtes pas là pour être au service de votre intérieur, c'est votre intérieur qui est là pour être à votre service. L'intériorisation de ce principe vous aidera à 1. Considérer les tâches d'entretien et de soins non plus comme une obligation morale, mais comme une mission fonctionnelle. 2. Percevoir les changements que vous souhaitez opérer. Et 3. Les intégrer sans effort à votre existence en vous appuyant non pas sur la dépréciation de soi, mais sur l'autocompassion. Ce livre va vous aider à trouver votre méthode pour faire en sorte que votre maison demeure fonctionnelle, quelle que soit la signification du terme fonctionnel à vos yeux. Ensemble, nous allons jeter les bases de l'autocompassion et apprendre à mettre un terme à ce dialogue intérieur négatif et à éradiquer la honte. Et c'est seulement ensuite que nous commencerons à étudier les moyens de gérer nos obstacles fonctionnels. J'ai dans mon arsenal des tas de conseils pour nettoyer une pièce quand vous êtes submergé, trouver la motivation dans les moments où vous n'avez rien envie de faire, vous organiser sans avoir le sentiment d'être dépassé. J'ai des idées pour faire la vaisselle et la lessive les jours sans, et plein d'astuces ingénieuses pour travailler avec un corps qui ne se montre pas toujours coopératif. Et nous allons y parvenir sans recourir à des listes de contrôles interminables et des routines écrasantes. À l'heure de vous lancer dans cette aventure, je vous invite à garder ces mots en tête. Lentement, calmement, gentiment. Vous méritez d'être aimé et d'éprouver un sentiment d'appartenance. Il ne s'agit pas d'un périple axé sur le mérite, mais d'un voyage pour prendre soin de vous-même. Un cheminement qui consiste à apprendre à vous choyer lorsque vous avez le sentiment de couler. Parce que vous devez savoir, chères lectrices et chers lecteurs, que vous méritez tous les soins du monde, que votre maison soit immaculée ou un véritable chantier. Les tâches d'entretien et de soins sont moralement neutres. Être bon ou mauvais dans ce domaine n'a aucun rapport avec le fait d'être une personne, un parent, un homme, une femme, un conjoint, un ami, de qualité. Absolument aucun. Vous n'êtes pas nul parce que votre pile de linge ne diminue pas. Le linge est moralement neutre. La prochaine fois que vous essayez de vous parler pour vous inciter à exécuter une tâche d'entretien et de soins, remplacez le discours de votre petite voix qui vous dit « Pouah, je devrais vraiment nettoyer ma maison sur le champ parce que c'est un désastre » par « Ce serait vraiment un geste de gentillesse envers mon moi du futur de me mettre à… » trois petits points. Cette tâche m'offrira par la suite réconfort, commodité et plaisir. Ce n'est pas une arnaque, vraiment. Il ne s'agit pas d'une formule conçue pour que vous vous bougiez. Il peut arriver que vous ne vous bougiez même pas malgré le changement de dialogue intérieur. Mais vous savez quoi? Vous ne vous bougiez pas non plus lorsque vous étiez méchant avec vous. Alors, vous pouvez au moins être sympa avec vous. Personne ne va mieux mentalement après s'être couvert de honte. Une des choses que Casey mentionne dans ses vidéos et les vidéos que j'ai vues d'elle, c'est le rangement selon 5 catégories. Donc, on va regarder ça un petit peu dans le prochain extrait. On se sent facilement submergé à la vue d'un endroit en désordre. Prenez quelques minutes pour pratiquer l'autocompassion et respirer profondément. Bien que vous puissiez avoir une impression d'énormité, il n'y a en fait que 5 choses dans une pièce. Les ordures, la vaisselle, le linge, les choses qui ne sont pas rangées à leur place et les choses qui n'ont aucune place attribuée. 1. La première étape consiste à prendre un sac poubelle pour y mettre toutes les ordures. Empilez les choses volumineuses comme les boîtes et placez-les à côté du sac poubelle. Ne sortez pas les poubelles. 2. Rassemblez ensuite toute la vaisselle et placez-la dans l'évier ou sur le plan de travail. Ne faites pas la vaisselle. 3. Prenez un panier à linge et ramassez tous les vêtements et chaussures. Mettez le panier à côté des poubelles. Ne faites pas la lessive. 4. Choisissez ensuite un endroit dans la pièce, comme un coin ou un bureau, et posez-y les objets qui ont leur place dans cette pièce. Puis, formez une pile avec les objets qui n'ont pas de place attribuée. Passez à la pièce suivante et répétez la procédure jusqu'à ce que tous les éléments aient retrouvé leur emplacement. Vous disposez désormais d'une pile de choses n'ayant pas de place attribuée. Maintenant que votre intérieur est plus net, il vous sera plus facile de vous attaquer à cette catégorie d'objets. Vous pouvez choisir de vous débarrasser de certains, sans place attribuée, qui entretiennent le désordre. Vous pouvez trouver un emplacement définitif aux choses importantes. 6. Sortez vos poubelles, mettez le linge sale dans la machine à laver ou la buanderie. Votre intérieur est maintenant habitable. Je garde toujours la vaisselle pour un autre jour. Il vous intéressera peut-être également de réfléchir à ce que vous vous dites lorsque vous réussissez à mener à leur terme vos tâches d'entretien et de soins. Vous sentez-vous bien lorsque votre maison est propre et le linge est plié? Demandez-vous pourquoi. Éprouver du plaisir face à un intérieur fonctionnel. Je trouve plus facilement mes affaires, je ne trébuche pas sur les jouets, mon bambin se concentre mieux quand sa chambre n'est pas en désordre, j'ai de la place pour m'adonner à mes passe-temps, est une chose. Ressentir la satisfaction d'avoir atteint un critère moral. Je suis quelqu'un de bien, j'ai été une bonne mère aujourd'hui, je réponds aux attentes, je suis une vraie adulte. En est une autre. Ce que vous vous dites lorsque votre maison est propre et rangée conditionne vos réflexions quand elle est sale et en désordre. Ainsi, si vous êtes quelqu'un de bien quand elle est propre et rangée, c'est que vous devez être quelqu'un de mauvais lorsqu'elle ne l'est pas. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez simplement choisir de donner une signification complètement différente à votre pile de linge chronique. Au lieu de penser « je ne tiens jamais le rythme », dites-vous plutôt « je suis vraiment heureuse d'avoir tant de vêtements ». Lorsque vous voyez votre cuisine sale, votre petite voix peut affirmer « je suis vraiment bordélique ». Osez alors donner à cette situation une autre signification. Par exemple, « j'ai cuisiné pour toute la famille 3 soirs de suite » est une vérité. Si les tâches d'entretien et de soins sont moralement neutres, le fait de ne pas avoir pris de douche ou de ne pas vous être brossé les cheveux depuis 3 semaines ne signifie pas « je suis dégoûtante », mais simplement « je vis une période difficile ». Je vais vous dire ce que signifie le désordre pour moi. Je suis vivante. La vaisselle sale signifie que je me suis nourrie. Les accessoires et fournitures qui se retrouvent éparpillés signifient que je suis créative. Les jouets aux 4 coins de la maison signifient que je suis une maman qui s'amuse. Les boîtes empilées dans l'entrée signifient que j'ai été suffisamment attentionnée pour commander ce dont nous avions besoin. Les vêtements qui jonchent le sol signifient que ma journée a été bien remplie. Et parfois, le désordre signifie que je suis déprimée ou stressée. Mais ce ne sont pas pour autant des défauts d'ordre moral, tout comme cette tasse de café que je n'ai pas ramenée dans la cuisine. Les problèmes de motivation sont tout à fait valables, mais il est intéressant de vérifier si c'est vraiment la motivation qui vous manque. La motivation, c'est le désir ou l'envie d'effectuer quelque chose et le sentiment que cela en vaut la peine. Si vous ne comprenez pas l'importance de faire une machine ou si vous vous sentez affreux au point de penser que vous ne méritez pas de porter des vêtements propres, la motivation est forcément difficile à trouver. Par contre, si vous souhaitez porter des tenues propres, si vous estimez que votre vie serait plus belle avec des vêtements propres et que vous aimeriez être capable de faire cette machine que vous regardez depuis des heures, sans parvenir à vous y mettre, ce n'est pas un manque de motivation, c'est simplement que vous ne parvenez pas à vous y mettre. C'est un écueil qui vous est probablement familier si vous souffrez de TDAH, de troubles du spectre de l'autisme, d'état de stress post-traumatique ou de dépression, et il existe bien d'autres affections. Car il est bien connu que ces maladies engendrent des problèmes de fonctionnement exécutif, dont la difficulté à entamer une action. Ce peut être aussi parce que des facteurs situationnels comme un traumatisme, un deuil, un stress chronique ou une privation de sommeil influent sur votre fonctionnement exécutif. Respirez donc profondément. Vous n'êtes pas paresseux. Vous avez simplement besoin d'aide pour surmonter certains ennuis. La difficulté à entamer l'action est généralement liée à un problème de transition. Je suis assise et il faut que je fasse la vaisselle, mais cette transition entre la position assise confortable et me lever pour faire la vaisselle s'avère très difficile. Je dois donc trouver un moyen de créer une dynamique. Puis dans les pages qui suivent, elle parle de différents moyens de créer des dynamiques, comme par exemple de mettre de la musique, ou bien de se donner des objectifs, moi j'appelle ça des objectifs minuscules, mais en fait c'est se donner la permission de commencer. Donc, tu as la vaisselle à faire, ben donne-toi la permission de commencer en te donnant un objectif minuscule de laver une assiette ou un ustensile. Ou un verre. Vas-y au minimum. Tu veux faire du vélo stationnaire, 5 minutes, tu y arrives pas. Ben, dis-toi, donne-toi comme objectif de prendre 3 minutes à la place. Donc, de viser bas. De regarder avant la tâche. Qu'est-ce que j'ai besoin pour partir cette tâche-là? Mettons, j'ai ma vaisselle à faire. Ben, il faut que je sois dans la cuisine. Donc, je vais me déplacer du salon à la cuisine. Même si je m'assois dans ma cuisine puis que je fais rien pendant un long moment, j'ai regardé avant la tâche. Le temps d'attente. Donc, ça, c'est quelque chose que j'utilise souvent. En fait, c'est ça qui me sauve puis qui permet que je fasse ma vaisselle assez régulièrement. Pendant que mon souper est en train de se réchauffer, pendant que je suis en train de cuisiner quelque chose, ou mettons quand je suis en train de faire mon lavage, ce temps d'attente-là, je vais l'utiliser pour faire du ménage, pour faire ma vaisselle, pour ranger des choses, pour plier mon linge. Puis, une fois que ce temps d'attente-là est terminé, ben, j'arrête de faire mes tâches. Le multitask aussi, donc d'avoir des choses, on pourrait dire multitâche, mais en fait, c'est pas nécessairement de faire plusieurs tâches en même temps, c'est plus de se partir une émission qu'on aime, de se partir un balado. Je peux t'accompagner dans tes séances de ménage. T'as une très grande série de capsules de différentes longueurs. Ça va me faire plaisir que tu m'écoutes puis de t'accompagner dans ton ménage. Ça peut être bon de la musique, on l'a mentionné. Ça peut être la radio, n'importe quoi, un film, de partir quelque chose, puis d'avoir ça en background. Quand j'étais aux études, j'écoutais l'émission Jeopardy. En faisant ma vaisselle. Puis, c'est ça qui me permettait de faire ma vaisselle. Il y a aussi ce qu'on appelle le body doubling. Et ça, j'ai vu ça aussi. Il n'y a pas juste Casey qui en parle. C'est super pratique. Je l'ai utilisé quelques fois. C'est d'avoir quelqu'un avec toi dans ton espace, mais qui fait quelque chose de complètement différent. Fait que c'est pas nécessairement d'avoir une aide active, mais c'est simplement d'avoir une autre présence humaine autour de toi. Ça m'est arrivé à un moment donné, il fallait que je fasse un ménage au grand complet de mon appartement. Je voulais laver les planchers, faire ma vaisselle, tout nettoyer, plier mon linge, etc. Puis j'ai demandé à un de mes amis de venir lire dans mon salon. Puis il est venu, il a lu dans mon salon. Moi, j'ai fait tous les travaux que j'avais à faire. Finalement, ça a super bien été. Mais juste le fait d'avoir une autre personne dans mon espace, même si on n'a pas interagi ensemble, faisait en sorte que j'étais plus efficace puis j'étais plus focussée sur ma tâche. Et il y a aussi le truc de la minuterie. Bonus si la minuterie a une dimension visuelle, donc on voit, je sais pas, un sablier qui diminue au fil que le temps avance, ou il y a des minuteries aussi qui se vendent là, que quand on tourne, il y a comme c'est comme une zone rouge qui apparaît. C'est des minuteries physiques. Donc juste d'avoir une minuterie, de savoir que OK, il faut que je fasse 3 minutes, ou OK, je me donne 15 minutes pour ranger mon salon ou faire une tâche. Je me donne 5 minutes. Je lave ma vaisselle pour juste 5 minutes. Puis, une fois que la minuterie s'est terminée, ben on peut soit dire, OK, je continue, le mouvement est parti, ma transition est faite, je peux continuer à faire ma vaisselle, puis je vais la terminer. Ou bien, on peut dire, OK, le 5 minutes est fini, j'ai atteint mon objectif, j'arrête ça là. Donc, c'est toutes des... en fait, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6... C'est sept moyens d'effectuer la transition qu'elle parle un peu plus en détail dans son livre. Mais je tenais quand même à te les énumérer ici sans nécessairement les approfondir plus que ça. Mais ça peut être vraiment une bonne idée de la musique. Le premier point là, que j'ai mentionné, c'est aussi quelque chose que j'utilise. Donc, c'est en fait de se concentrer sur faciliter la transition, puis c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi dans tout ça. Pourquoi nettoyer alors que ce sera de nouveau sale demain? Voici un message de découragement que nous nous répétons souvent. À quoi bon tout ranger? Dès demain, ce sera de nouveau dans cet état. Il est associé à une conception binaire des tâches d'entretien et de soins. Elles sont soit exécutées, soit non exécutées. Et le statut exécuté est bien entendu supérieur à l'autre. En fait, faire en sorte que toutes les tâches soient exécutées n'est pas le but. Le but est d'avoir un logement fonctionnel. Car il sera de nouveau dans cet état demain seulement si je le nettoie et le range aujourd'hui. Si je ne fais pas le ménage, ce sera encore plus en désordre, car en y vivant, nous créons du désordre. Et si le désordre de demain, en plus de celui d'aujourd'hui, rend mon intérieur non fonctionnel à mes yeux, Alors, il serait temps de le remettre en état. Je range non pas parce que le désordre c'est mal, mais parce que mon intérieur a atteint la fin de son cycle de fonctionnalité et que je dois le réinitialiser de manière qu'il me rende service au cours des 24 heures à suivre. Dans notre société, les tâches d'entretien et de soins ont toujours été laissées aux femmes. Aujourd'hui, bien que leur rôle de fille, épouse et mère se soit enrichi de la possibilité d'assouvir des ambitions personnelles, de faire carrière et de bénéficier d'une certaine équité dans le monde du travail, cette responsabilité reste bien souvent exclusivement la leur au sein du foyer. Bien des femmes se retrouvent donc surchargées, devant à la fois assumer leurs charges professionnelles et les obligations invisibles inhérentes aux tâches d'entretien et de soins. Alors qu'un homme qui a du mal à venir à bout des tâches d'entretien et de soins sera moins jugé par la société indigne d'être aimé ou peu fiable qu'une femme. Par contre, cette souffrance peut vraiment peser et influer sur la santé mentale des femmes. Quel que soit votre genre, réfléchissez aux messages que vous avez reçus à propos des femmes et des tâches d'entretien et de soins. En quoi ces messages ont-ils modifié votre perception et vos relations avec elles? En quoi cela a-t-il influé sur ce que vous inspire votre propre genre? Alors, après avoir parlé d'attentes et de différences dans les genres, on va aller vers l'écologie. Oui, l'écologie est un thème incontournable, mais il vous sera impossible de sauver le monde si vous avez déjà du mal à vous occuper de vous. Alors, si vous devez utiliser des assiettes en carton pour être plus opérationnel pendant ce moment de crise, n'hésitez pas. Quand vous aurez sorti la tête de l'eau, vous pourrez agir pour le bien du monde. En attendant, votre mission est de survivre. Soyons réalistes. Lorsque l'on a des difficultés à être opérationnel, le tri sélectif devient une gageure. Vous devez donc choisir entre laisser les cartons s'entasser parce que vous êtes paralysé et jeter ces cartons à la poubelle et être capable de sortir de votre impasse. D'une manière ou d'une autre, le tri sélectif ne sera pas fait ce jour-là et si vous sacrifiez quelques semaines de tri de carton, papier ou plastique, vous aurez peut-être la chance de devenir un être humain opérationnel, capable de s'engager et de changer les choses pour des causes aussi importantes que la défense de l'environnement. Retenez que ce n'est pas en éprouvant de la honte parce que vous ne vivez pas tout à fait de manière durable, vous mangez de la viande ou craquez pour un vêtement pas étiqueté écologiquement vertueux, alors que vous luttez pour venir à bout de vos journées, que vous vous offrirez soudain la capacité de changer. La honte est un très piètre facteur de stimulation sur le long terme. Elle est plus susceptible de favoriser les dysfonctionnements et d'entretenir les cycles de comportement non durables. Quand ma seconde fille est née, en plein confinement, le vieux problème du brossage des dents a fait son retour en force. Ajouté à la liste, une dépression postpartum et un TDAH non diagnostiqué, et le brossage des dents est vite devenu la tâche impossible. Au bout de 18 mois d'autocompassion et de divers rituels d'adaptation qui ne semblaient pas efficaces, j'ai enfin été honnête avec moi-même et commandé une boîte de 144 brosses à dents avec dentifrice intégrée. Je les ai entreposées dans un saladier à côté de la porte d'entrée et j'en attrapais une quand je passais devant pour aller à la cuisine ou sortir par la porte de derrière. Je conservais les brosses utilisées dans un bocal jusqu'à ce que je trouve un moyen de les recycler. Néanmoins, j'éprouvais une certaine honte à employer une telle quantité de plastique à usage unique. Alors, mon ami Imani Barbarin m'a dit, tu sais, ces masques chirurgicaux que tout le monde porte pendant cette pandémie, ils sont également en plastique. Imani défend avec beaucoup de talent les personnes handicapées. Elle évoque souvent la relation entre handicap et écologie. Pour elle, l'utilisation acceptable du plastique est toujours en fonction des besoins de l'individu pour veiller sur sa santé. Masques, gants, flacons, bandes de kinésiologie, etc., voire conditionnement des compléments alimentaires. Or, quand une personne porteuse de handicap utilise du plastique, tout le monde lui reproche de nuire à la planète. Il faut ce qu'il faut, a-t-elle affirmé d'une voix douce mais ferme. Et elle avait raison. En outre, si je ne parvenais pas à me brosser les dents plus souvent, l'inévitable visite chez le dentiste allait sans nul doute engendrer l'utilisation d'une quantité de plastique 10 fois supérieure. En fait, on pourrait dire que tout ce qui vous sert à être opérationnel ne doit pas être considéré comme un déchet. Arroser votre jardin pendant 15 minutes tous les jours, c'est gâcher, car il n'a pas besoin d'autant d'eau pour rester en état. Les magasins d'alimentation et restaurants jettent quotidiennement de la nourriture encore bonne. C'est là encore du gâchis. Ne pas faire réparer ce robinet qui goûte, c'est gâcher de l'eau. Mais utiliser est différent de gâcher. Vous pouvez utiliser des assiettes en carton si vous êtes dépressif, sachant que vous auriez du mal à vous alimenter sans cette facilitation. Une personne diabétique se sert d'aiguilles jetables et vous pouvez très bien acheter de temps en temps ces fichues salades emballées. L'impact positif que vous aurez sur le monde quand vous serez en pleine possession de vos moyens sera bien supérieur à l'impact négatif de votre période un peu moins éco-responsable. Bien sûr, il peut arriver que des restrictions soient mises en place pour éviter des pénuries d'eau, par exemple, et dans ce cas, il vous faudra faire de votre mieux pour vous en sortir. Mais accorder la priorité à votre fonctionnement et trouver d'autres moyens de contribuer à la défense de l'environnement n'est pas mal en soi. Abordons maintenant le sujet de la vaisselle. Tout d'abord, prenez connaissance des 3 règles de base. Si cela fait 7 jours que vous vous lamentez sur la vaisselle, allez acheter des assiettes en carton. Si la vaisselle sale est dans l'évier depuis plusieurs mois, jetez-la à la poubelle. Si vous souhaitez vous attaquer à la pile de vaisselle sale, poursuivez la lecture. Étape 1, la préparation. Mangez quelque chose de sucré, cela fera grimper votre glycémie et mettez un super morceau de musique. Mettez un joli tablier et enfilez des gants. Étape 2, l'organisation. Sortez la vaisselle sale de l'évier et triez-la par type. Gros ustensiles, petits ustensiles, saladier, assiette, tasse, gros récipient encombrant, casserole, marmite, etc. Ce tri est utile car il vous permet de constater qu'il n'y a pas autant de vaisselle que vous le pensiez. Il est généralement gratifiant pour la plupart des gens et permet de garder la motivation. Il vous prend généralement 5 minutes et a le mérite de libérer votre évier. Si, après ces 5 minutes, vous décidez que vous en avez terminé, il y aura certes encore de la vaisselle sale, mais l'évier sera vide et un évier vide est fonctionnel. Il serait tout à fait acceptable de laver directement la vaisselle se trouvant dans l'évier sans procéder au tri et vous pouvez toujours vous autoriser à arrêter au bout de 5 minutes. Mais il restera alors de la vaisselle sale et l'évier sera toujours encombré. J'estime donc que le tri est une approche plus fonctionnelle. Étape 3, faites la vaisselle. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que, bon, moi, je fais la vaisselle depuis que j'ai, quoi, 4 ans. Donc, je suis une professionnelle de la vaisselle et, en effet, comme je me suis mis à organiser la vaisselle avant de la laver. Ce qui est vraiment très pratique. Puis, je me souviens à un moment donné, j'avais été chez une amie qui était nouvelle maman. Puis, elle me dit, oh non, je veux pas que tu fasses ma vaisselle, comme, occupe-toi-en pas. Puis, ce que j'ai fait, j'ai juste rincé sa vaisselle, puis je l'ai organisée. Et ça lui a libéré beaucoup d'espace de comptoir et son évier. Puis, était toute contente et comme ça, ben, on n'avait pas eu de problème. J'avais pas fait la vaisselle, mais c'était fonctionnel pour elle. Donc, ça fait vraiment un gros changement d'organiser la vaisselle. Donc, je recommande ce truc et tous les autres, mais celui-là en particulier. Quand vous avez du mal à prendre une douche. Les personnes ayant du mal à s'occuper de leur hygiène sont plus nombreuses qu'on ne le pense. Que ces difficultés soient physiques ou mentales, c'est dans ce domaine que la honte est le plus marquée. N'oubliez pas que la douche est un élément fonctionnel et non moral. Des millions d'êtres humains ont vécu en bonne santé avant l'invention de la douche. Comme pour toute tâche d'entretien et de soins, la clé est l'autocompassion. La honte est l'ennemi de la capacité à être opérationnel. Le corps est destiné à nous amener d'une expérience joyeuse à une autre. Nous avons des raisons fonctionnelles de nettoyer ce corps, car nous souhaitons qu'il demeure en bonne santé, et ça fait par ailleurs beaucoup de bien. Par conséquent, si vous avez un problème physique ou émotionnel qui rend le fait de prendre une bonne douche pénible au point de ne pouvoir rien faire d'autre de votre journée, il est tout à fait convenable de programmer une douche seulement une à deux fois par semaine, selon vos capacités. Pour le reste du temps, vous pouvez vous servir d'un kit d'hygiène composé par vos soins ou pas. Il peut s'avérer utile de disposer de plusieurs kits dans divers endroits facilement accessibles. Je conseille par exemple aux jeunes mamans d'en mettre un à proximité de là où elles s'occupent de leur bébé, et aux personnes dépressives d'en placer un à côté de leur lit. Kit d'hygiène, lingette pour bébé, shampoing sec ou huile, brosse à cheveux, brosse à dents et dentifrice, solution pour bain de bouche, lotion pour le visage, déodorant, huile essentielle ou brumisateur qui sent bon et gants de toilette. Le repos est un droit, pas une récompense. Si, à vos yeux, les tâches d'entretien et de soins ont une dimension morale, il est probable que A, vous n'arrêtiez pas une seconde, vous vous sentiez anxieux, débordé ou épuisé en permanence, ou B, vous manquiez de motivation, vous soyez paralysé, débordé et épuisé en permanence. Ce sont les deux facettes d'un même problème, la honte. Quand nous sommes persuadés que notre valeur dépend de notre faculté de venir à bout d'une to-do list interminable, nous ne nous accordons un peu de repos qu'une fois toutes les tâches à exécuter. Et même si on parvient à se mobiliser en se servant de la honte comme moteur, on constate que l'on éprouve de la honte également en se reposant. Au lieu de générer un certain soulagement, les pauses ne déclenchent qu'un sentiment de culpabilité. Vous n'avez pas besoin de gagner le droit de vous reposer, de voir vos amis ou de vous détendre. Débarrassez-vous du principe selon lequel vous n'avez pas le droit de vous poser qu'après avoir exécuté toutes les tâches d'entretien et de soins. Leur liste est sans fin et si vous attendez d'avoir tout bouclé pour vous reposer, vous ne vous reposerez jamais. Je ne crois pas à la notion de paresse, mais même si c'était le cas, la bonne nouvelle, c'est que la bienveillance envers soi-même est extrêmement motivante. Car lorsque vous commencez à vous autoriser des plages de repos sans culpabiliser, vous vous offrez un repos très réparateur. Et c'est peut-être ce dont ont besoin votre corps et votre esprit. La recherche a montré qu'il faut parfois des mois, voire des années, aux personnes victimes de burn-out pour s'en remettre. Votre corps pourrait avoir besoin de tout ce temps pour traiter ce processus, se reposer et exister. Si vous faites preuve de bienveillance envers vous-même, vous serez plus enclin à prendre soin de vous que si vous vous rabaissez en fustigeant votre paresse. Je ne m'inquiéterai donc pas pour ça. L'équilibre entre le repos et le travail se trouve naturellement lorsque vous êtes bienveillant envers vous-même. Il n'est pas rare que la maltraitance familiale s'exprime par le recours aux tâches ménagères pour punir et humilier. C'est une façon de refuser de donner de l'amour et d'infliger des souffrances. Cette attitude a une influence profonde sur le moi de l'enfant et ses messages demeurent dans son esprit une fois qu'il est devenu adulte. Cette attitude a généralement deux effets. Soit vous évitez les tâches d'entretien et de soins car vous les considérez comme une punition et vous pouvez enfin vous débarrasser en tant qu'adulte. Soit vous faites le ménage en permanence, voire de manière compulsive, car vous avez intériorisé le message selon lequel vous êtes sale ou nul si tout n'est pas propre et rangé. Alors, la prochaine fois que vous entendrez votre tyran intérieur, prêtez bien attention au message qu'il envoie. S'agit-il vraiment de votre voix? Une thérapie peut s'avérer très utile pour révéler ce type de traumatisme et vous aider à associer ces tâches d'entretien et de soins au bien-être au lieu de les considérer comme une punition. Si enfant, vous avez été victime de négligence et de maltraitance dans un environnement particulièrement sale ou en désordre, vous avez peut-être le sentiment que votre devoir numéro un en tant que parent et de ne jamais faire en sorte que vos enfants ressentent ce que vous éprouviez à l'époque. Or, il est important de garder à l'esprit que ceux-ci n'ont pas la même perception émotionnelle du désordre ou de la saleté que vous. À vos yeux, le désordre était synonyme de chaos et de danger. Vous n'étiez pas en sécurité, n'étiez pas aimé et on ne prenait pas soin de vous. Aucun parent ne souhaite que ses enfants éprouvent cela. Voilà pourquoi il se peut que vous alliez trop loin en chassant le moindre désordre, peut-être même au point de vous épuiser et de ressentir une détresse émotionnelle. Laissez-moi vous rassurer, vos enfants n'auront jamais la perception du désordre qui était la vôtre si vous êtes protecteur et aimant. Des jouets éparpillés au sol sont à leurs yeux le signe que leurs parents les aiment suffisamment pour leur faire des cadeaux. La vaisselle dans l'évier est le signe que leurs parents les nourrissent. Des taches sur leurs vêtements leur rappellent que c'est très cool d'avoir des parents qui leur laissent faire des travaux manuels ou jouer dans la boue. Manque de compétences versus manque de soutien. Arrêtez de vous reprocher de manquer de compétences alors que vous manquez en fait de soutien. Prendre soin de soi n'a jamais eu pour vocation de remplacer le fait de prendre soin des autres. Vous efforcer d'être meilleur risque d'épuiser le peu d'énergie dont vous disposez. Pour continuer de tenir le coup, il vaut probablement mieux pleurer, dormir et trouver des petits moments de joie. Le manque de soutien n'est pas toujours la faute de quelqu'un en particulier. Dans la vie, il existe des périodes que nous traversons tant bien que mal. Je repense très souvent à ces périodes en me disant avec tendresse, quoi, j'ai vraiment fait du mieux que je pouvais avec les moyens du bord. Et ce qu'il y a de drôle quand on cherche à faire de son mieux, c'est que, sur le moment, on n'a jamais l'impression d'être à son meilleur niveau. En fait, on a presque toujours le sentiment de mal faire. Lorsque je repense à la jeune fille de 16 ans en convalescence qui sanglotait toute seule dans son coin et se sentait nulle parce qu'on lui disait en permanence qu'elle ne faisait pas suffisamment de progrès, je me rends compte aujourd'hui qu'elle faisait de son mieux. J'aurais souhaité que, à l'époque, quelqu'un en ait conscience et le lui dise. Mais pas de souci, aujourd'hui, je lui dis en permanence. Vous méritez de passer un beau dimanche. Une internaute qui me suit m'a laissé dernièrement le commentaire suivant. Merci. Je passe la journée dehors à profiter du beau temps en dégustant un café à la citrouille au lieu de passer 8 heures à faire le ménage comme chaque dimanche, ce qui n'est vraiment pas nécessaire. À mon retour, je me contenterai de 2 heures de ménage. J'ai eu envie de danser de joie. Elle avait mis dans le mille. Pour sortir et profiter d'un beau dimanche, il faut des vêtements à se mettre, d'où l'utilité d'avoir fait une machine. Notre corps doit disposer de la force et de l'énergie nécessaires pour que nous puissions nous adonner à des activités par un beau dimanche, d'où l'utilité de le nourrir. Vous souhaiterez peut-être mettre votre nouveau chapeau ou lire un livre dans le parc. D'où l'utilité de disposer d'un intérieur dans lequel vous trouvez facilement tout ce dont vous avez besoin. Toutes ces choses sont fonctionnelles et non morales. Vous n'avez pas besoin d'exécuter des tâches d'entretien et de soins pendant 8 heures pour mériter d'aller au parc. Vous pouvez profiter de votre journée, puis passer 2 heures à remettre les choses en ordre fonctionnel, de manière à apprécier également la semaine à suivre. Intériorisez le fait que vous n'êtes pas destiné à être au service de votre intérieur, mais que votre intérieur est là pour être à votre service, va vous changer la vie. Les tâches d'entretien et de soins n'existent que pour une seule raison: rendre votre corps et votre logement suffisamment fonctionnels pour que vous puissiez profiter avec joie de tout ce que le monde peut vous offrir. Alors voilà, c'est ce que je voulais te partager du livre « Prendre soin de sa maison, même en plein chaos ». Et en fait, elle parle de tellement plus dans ce livre-là. Elle parle, bon, du linge, de la vaisselle, on y a touché un petit peu, de la douche, de prendre soin de son lit, laver ses draps, de programmes de tâches, de ce que j'appelle un « closing shift ». Elle parle aussi d'exercice physique, de relations avec son corps, de comment mettre des limites vis-à-vis des commentaires des gens de l'extérieur, le partage de tâches lorsqu'on est plusieurs à habiter dans un même espace, la notion d'effort versus de temps et aussi un système de priorisation des tâches. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, bon, sur son site, elle a plein de ressources puis d'exercices, elle offre du training, elle offre des cours aussi par rapport à ça, qui sont à des prix vraiment très abordables, honnêtement, et j'étais surprise. Mais aussi, c'est que c'est toutes des choses que c'est pas une formule toute faite, dans le sens que c'est pas très difficile à faire comme formule non plus, donc c'est pas un exercice qui va te prendre beaucoup d'énergie à faire, mais c'est juste de s'assurer de pouvoir rentrer en dedans de soi. Puis, c'est ce qu'elle facilite. Donc, de rentrer en dedans de soi puis de voir, OK, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi qui est fonctionnel pour moi? Qu'est-ce que j'ai besoin? Puis, comment est-ce que j'organise ces priorités-là? Donc, c'est pas, OK, bon, ben le plus important, c'est d'avoir la vaisselle toujours propre. Si pour toi, ta vaisselle, c'est pas important, ben c'est pas ce que tu vas avoir dans tes top priorités. C'est très correct. Puis, son système le permet aussi. Donc, c'est super intéressant. Moi, personnellement, bon, il y avait des choses que je faisais déjà avant même d'avoir lu son livre. Mais pour un livre qui prend un petit 2 heures à lire, ou même 30 minutes, 60 minutes à lire, si on fait la version avec raccourci, je trouve qu'elle touche beaucoup à tout ce qui est tâche, tout ce qui est soin. Puis, j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant comme façon de voir les choses, surtout venant d'une maman professionnelle qui a eu, bon, de la dépression postpartum, qui a du ADHD, qui est neuroatypique. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça, puis d'avoir cette approche-là qui est pleine d'autocompassion, je vais finir par le dire, et de compréhension aussi. Donc, c'est ça. En fait, j'espère que ça a été un épisode qui t'a apporté de la douceur. En fait, je pense que c'est ça mon but, c'est de pouvoir t'apporter, c'est ça, de la douceur, puis une certaine liberté ou un certain calme ou une certaine paix par rapport à ton environnement dans lequel tu vis, puis à aussi respecter tes capacités là-dedans. Je pense que c'est ça qui est important. Moi, en tout cas, de lire ce livre-là, puis de me plonger un peu plus dans ce sujet, m'a vraiment aidée. Justement, ce matin, j'ai fait un gros ménage, si je peux dire, là, de mon appartement, mais j'y étais avec les 5 types d'éléments dans une pièce. Puis, Ça a super bien été. Je me suis mis de la musique. Puis, Je pense que c'est toutes des petites choses qui peuvent faire la différence. Et ben c'est ça, j'espère que ça peut en faire une pour toi. Sache que si un jour je viens chez toi, peu importe qui m'écoute, que l'état de ta maison ne va jamais être une source de jugement pour moi. J'ai vu toutes sortes de maisons, d'appartements, dans toutes sortes d'états. Puis, je me fais un point d'honneur, encore plus après avoir lu le livre de Casey. Je me fais un point d'honneur de ne pas attribuer de valeur morale au ménage. Donc, j'espère que toi aussi, tu vas pouvoir faire la même chose en regardant ton propre environnement, puis l'environnement des gens chez qui tu vas. Alors, écoute, je t'envoie plein d'amour. Puis, j'espère que tu as apprécié. Si tu as des commentaires, si cet épisode-ci t'a aidé, n'hésite pas à me laisser un commentaire sur mon Instagram, sur mon Facebook ou par courriel si tu veux que ce soit plus anonyme ou plus privé. N'hésite pas à aller voir strugglecare.com, à chercher Casey Davis sur Google, sur YouTube, à écouter son TED Talk, à écouter son podcast. Vraiment, je pense que ça peut être une super bonne ressource si ce que j'ai lu t'a intéressé. Alors, je te laisse là-dessus. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, dépendamment de quand est-ce que tu m'écoutes. Puis, je t'envoie plein d'amour et on se voit à la prochaine capsule. Bye!